Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, et bonne année 2026, que tout se passe bien, ma foi, dans le meilleur des mondes. Voilà, alors, on va laisser cette semaine le pays des collines bleues et laisser la petite fille bondissante. Alors, c'est un livre pour enfants, très bien illustré. Alors, les textes sont de Brigitte Blond et les dessins de Colline Lamy. Alors, je vous laisse découvrir ce livre qui est édité par le livre en papier. Et cette semaine, nous allons retrouver Michel Testu et l'éloge des paysans. Voilà. Alors, l'éloge des paysans, le temps que je retrouve ma page. Voilà, c'est un petit livre qui est édité par les éditions du Ruisseau en 2016. Voilà. Alors donc, on va reprendre la lecture de ce livre. Et il nous dit dans un passage, le paysan ne rechignait pas devant le travail, se levait avant le jour en hiver et le jour en été, mais comptait sur la singulière endurance et savait modérer ses efforts avant qu'il ne soit trop pénible. Il accordait sa cadence au patrinant de ses bœufs, de la peut-être cette nonchalance qui étonna et fit la réussite des paysans bretons qui émigrèrent nombreux en Périgord au cours des années 1920-1930. Ils arrivèrent avec des choses si vigoureux et si nerveux qu'on les vit labourer au pas de course. On disait même que les bretons, qu'ils avaient du sang de cheval. Ils se jouèrent des maigres pacages où depuis des millénaires, seules les brebis tenaient le haut du talus, trouvèrent le moyen d'y acclimater leurs vaches. Ainsi, n'attendant pas à faire leur beurre, là où le paysan périgordin vivait dans une paisible précarité. Une année bonne et l'autre non, dont ils avaient la suffisante de se contenter. La formule est de Montaigne. C'est chez paysans-là, et n'en déplaise certains qu'il y ait d'extraordinaire à cela, si on m'objecte que la majorité d'entre eux n'avait jamais lu Montaigne, ni même jamais entendu parler de lui. Je rappellerai qu'il existe une étrange influence du territoire sur le caractère de ceux qui l'habitent. Montaigne était d'ici et enfant avait été confié à des paysans. Donc, qui est plus est, la manière dont les paysans faisaient la part de leurs plaisirs, de leurs nécessités, jusqu'à imaginer un art de vivre aujourd'hui si convoité. Et vous évoque-t-elle pas Montaigne ? N'est-il pas remarquable que de siècle en siècle, au gré d'une histoire souvent calamiteuse, non content d'assurer leur survie, ils aient souhaité survivre, si possible, avec volupté, faisant fait de tout bois, sans scrupule, consumant jusqu'au dernier brandon de joie, avec un hédonisme admirable d'esprit et de sagesse. On va continuer un peu cette lecture. Il y a un chapitre qui s'intitule « La gloire des granges ». Et bien sûr, un petit rappel, la grange, à la grange va le blé, et c'est un vieux proverbe. Alors j'aime les granges, d'abord leur architecture, à la fois massive, rustre et majestueuse, leur toiture pour l'ensemble des greniers, les charpentes sont admirables, imposantes, cyclopéennes, dignes de sanctuaires. Certaines églises romanes n'ont-elles pas les mêmes, mais il y a des régions du Périgord et du Limousin, elles sont si hautes, si joliment profilées, qu'on croirait des carènes de navires. Sans doute sont-elles l'œuvre de charpentiers de marine en rupture de banc, qui un temps se trouvèrent chez nous, une île, et quand j'étais jeune, elles crépitaient de moineaux, offraient chaque année asile aux hirondelles estivales, étaient hantées par le frôlement blanc ouaté de vieux hiboux familiers et les claires formes et furtives de belettes. Là-dessous, les greniers en surplomb débordés de fourrage qui ruisselaient en franges blondes sur les crèches de bois lustrées comme de beaux meubles. Sur le linteau des granges, on pouvait parfois lire une vieille date qui racontait beaucoup de choses. Alors, anciennes, beaucoup de choses anciennes, évidemment. Alors, derrière leur porte charretière, si haute et si large que dans l'un des battants s'ouvrait encore une petite porte. Dès le seuil, c'était d'abord l'opulence de l'odeur qui littéralement nous submergeait. C'était un choc, un séisme émotionnel dont les granges possédaient le secret, une effluve avait traversé le temps et témoigné de plus de temps ancien encore, qui tout à coup s'imposait comme un instant d'éternité. Ça sentait le foin, la paille, la terre, le musc, la litière chaude et la laine grasse des bêtes, le crin et le vieux cuir, une exhalaison à la fois violente et doucereuse dont on ne pouvait se rassasier. Elle passait aussitôt dans le sang, touchait le cœur et ravivait une longue mémoire atavique, un parfum d'exhaustisme révolu et aussi un parfum d'enfance et de grandes vacances. Ces senteurs ne me lâcheront jamais. C'est vrai que la vie des paysans, c'était quelque chose. Pour les petits citadins, moi je vous rappelle, j'allais en vacances dans le Lot, et bien sûr on aidait les paysans, enfin on aidait, façon de parler, les paysans pour beaucoup de choses. Alors je continue un peu la lecture. J'aime ces vieilles grottes, dernière bastion d'une civilisation agraire qui célébrait la complémentarité originelle de l'homme, de l'animal, de la terre, des plantes. Les granges étaient signes extérieurs de ce richesse-là. C'était devant les granges que l'on montait ostensiblement le tas de fumier dont l'opulence donnait à supposer de l'essence de la ferme. Devant les granges que l'on édifiait fièrement les herbiers, les moissons, devant les granges qu'on installait joyeusement la batteuse. C'était dans les granges qu'on faisait ripaille pour fêter les récoltes, que l'on chantait la chanson des blés d'or à la fin des repas et que l'on conservait le grain précieux des semences et que dans un trou du mur l'ont caché son magot. Ben oui, et les trous qui étaient bien faits pour ça et que l'on rebouchait vivement. Alors, je vous rappelle, par exemple, au décès de mon beau-père, on a retrouvé dans la grange des tas de bocaux, de conserves, mais ma foi, qui étaient un peu dépassés. Mais enfin, certains étaient encore bons à manger et l'on n'a pas manqué. Bon, alors, je continue la lecture dans les granges. Que l'on donnait asile aux vagabonds et aux proscrits après avoir confisqué allumettes et briquets. C'était sur des pentes des granges que l'on tressait de blé et de lavande des croix porte-bonheur dans Saint-Jean, que l'on crucifiait des oiseaux de malheur, que l'on alignait des plaques de trophées des commis agricoles, que l'on trouvait des pattes de sanglier abattues, comme j'en dis, celles des loups, étranges exotos d'un monde disparu. Mais oui. Et oui, tout ça, maintenant, les tracteurs, on ne coupe pas les tracteurs après les portes. De toute façon, je pense que les portes ne tiendraient pas. Alors, il y avait bien sûr, on va remonter un peu le temps, il y a les jours de battage, voisins, voisines, parents et amis étaient conviés à donner la main. L'étoffe locale qui signifiait prêter main forte, tandis que les hommes s'activaient à la batteuse mugissante dans un nuage de poussière, un cliquetis de fourche, les femmes s'affairaient aux cuisines, et il fallait mettre beaucoup de monde à table, parfois jusqu'à 40 convives, d'autant que ce jour-là, l'on mangeait trois fois la soupe, c'est-à-dire que l'on faisait trois solides repas. Les cuisinières consacraient 4 ou 5 jours à de longs préparatifs de préliminaires divers. Il fallait tuer et plumer les volailles, mitonner les fonds de sauce pour les daubes, apprêter les rôtis, hacher les viandes, les farces, pétrir les pâtes, des tartes, éplucher des montagnes de légumes et de fruits, inventorier marmites, faitout, cocottes, poêles et tous les ustensiles des grands jours. Malgré la chaleur d'août, on rallumait la vieille cuisinière de fonte et le feu dans l'âtre. Il y avait tant à cuire, on ne pouvait manquer de se faire honneur, car c'était aussi dans ces circonstances que s'établissait la réputation des familles. Eh bien oui, le casse-cou, c'était quand même quelque chose de quand même important. On travaillait beaucoup, mais on mangeait bien. Alors, à midi, il s'agissait alors d'un véritable repas, l'incontournable soupe, puis salade de tomates, à l'eau de vie, ça je connaissais pas, mais c'est peut-être bon, il faudra goûter. Dôme de veau au cèpe, ou fricassée d'abatinois, et enfin ces fameuses caillades, ces rustiques fromages issus de l'écaillée, pressés et goûtés dans les faisselles en fer blanc, avant d'être démoulés, et poser tout frais, tout ruisselant, de petits laits sur une feuille de vigne. À cette époque, le soleil était au plus haut et la torpeur d'hôte à son paroxysme. La chaleur excédait les odeurs les plus cachées, odeur de l'herbe assoiffée, des feuilles réchauffées par l'été, odeur de sève et de résine, odeur d'anis amer, des carottes sauvages en fleurs, odeur de cette poussière brûlante qui retombait lentement, mêlée à celle de la sueur, une insurrection de senteurs et par-dessus la belle arrogance des fragrances qui venaient de la cuisine. Alors dans la courte ou près de la batteuse, reine du jour, où convergeaient les regards, où pliaient les hommes entre eux, et regroupaient les tables dans la flaque d'ombre, les trois tilleuls centenaires au pied du plus gros mettaient à rafraîchir les bouteilles dans de grandes bassines d'eau glacée du puits. C'était la seule fraîcheur du moment, avec les frôlements virevolants des robes des filles quand elles apportaient les plats. Eh bien oui. Et puis il y avait quand même certaines gaudrioles qui volaient un peu bas. Mais bon, c'était quand même la fête. Alors, il y avait bien sûr, alors on va remonter un peu dans le temps, il y avait bien sûr les vendanges. Alors c'était habituellement l'un de ces matins d'octobre qui chez nous déploie des flamboyances très émouvantes, dignes d'une fresque de Renoir, et parler ne sert à rien. Cette beauté-là doit être vécue dans toute sa sualité. Il faut toucher l'âme des vignes. Cette époque de l'année se part de camailleux doux, d'un impressionnisme très subtil, avec tout au fond un reste de vert acide qui exaspère une petite froidure de l'aube, de l'aube car il n'était pas rare que les premiers rayons du soleil enflamment sur le talus du nord les étincellements d'une gelée blanche précoce. Eh bien oui, ça arrive, les vendanges, je me souviens de vendanges faites non pas en Ordogne, mais dans le Lot. Et là, il y avait bien sûr, à l'époque, c'était peut-être moins connu en Ordogne, enfin tout au moins dans le Sarladais, mais il y avait déjà les tracteurs avec les tonnes dessus. Et bien sûr, les gosses que nous étions, on se barbouillait avec les grappes quand même qui étaient passées dans le fouloir. Alors, bon, je vais continuer un peu cette lecture, car je vous assure qu'on y prend vite goût. J'ai saisi, comme on dit en cuisine, une sagesse plus savoureuse encore que les mets que nous partageons. Elle comblait tout ce qui, au fond de moi, avait faim et soif de cette joie de vivre que nous sommes parfois sur le point de perdre. Ces hommes et ces femmes étaient riches de cette connaissance viscérale de la terre, des végétaux, des bêtes, des éléments, d'où ils tiraient substance de leur vie, sans doute la connaissance des derniers hommes habitués par l'obscure conscience de leur appartenance au monde. Une étonnante humanité émanée de leurs mains énormes, lourdes, lentes, rabinées, crevasses, incrustées de terre, ces mains si puissantes au travail qui pourtant capables d'extrême délicatesse avec la nourriture, ces belles mains d'hommes rayonnantes d'une force tranquille qui nous racontaient beaucoup de choses très rassurantes. Ils mangeaient presque cérémonieusement avec une délectation paisible et n'étaient pas de ces goulus qui baffrent sans y penser. Ils regardaient ce qu'ils mangeaient avec le regard de ceux qui savent apprécier et qui savent apprécier. Ils savaient que leur pissenlit était blanc parce qu'ils les avaient cueillis à l'ubac du coteau et que le pompier qui remplaçait le long du mur du sud de leur grange était plus tendre qu'ailleurs. Ils savaient pour la viande et pour les meilleurs morceaux proviennent de la cuisse sur laquelle de la bête a l'habitude de se coucher, aussi de leurs femmes qui savaient les faire rassir juste le temps qu'il faut pour qu'elles soient goûteuses. Connaissait une multitude de petits trucs et toutes les grandes lois naturelles, la germination, la transformation. En mangeant ce qu'ils mangeaient, ils savaient qu'ils ajoutaient de la vie à la vie. Voilà, mais je vais arrêter là cette lecture. Donc, mais si vous voulez connaître le tout, c'est Éloge des paysans, audition du ruisseau, et c'est de Michel Testu. Et voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.